Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Grace Amzati Massandi.
Les titres de ce journal, les autorités éducationnelles du Lualaba affirment qu'elles font tout pour une reprise imminente des activités scolaires au lycée Mwanga de Kolwezi, trois jours après le drame. C'est ce que nous dira Jean Gandou à l'ouverture de ce journal. Deux propositions de loi relatives aux ordres nationaux des héros nationaux et des léopards ont été déclarées recevables hier par l'Assemblée nationale. Des milliers de personnes sont restées sans abri dans plusieurs territoires des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Haut-Lomami et même du Maniema à la suite des inondations causées notamment par les eaux des pluies. Pour en parler, nous recevons ce soir, comme invité du journal, le professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert en environnement. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Trois jours après le drame du lycée Mwanga, qu'en est-il de la poursuite des activités scolaires dans cette école dont plusieurs salles de classe ont été endommagées par les feux? Les autorités éducationnelles du Lualaba indiquent qu'elles font tout pour une reprise imminente des activités scolaires. C'est ce que nous dit à Lubumbashi Jean Gandou.
Après l'incendie survenu au lycée Mwanga à Kolwezi, les autorités éducationnelles de cette ville minière cherchent les voies et moyens pour la reprise des cours. Cela pour permettre aux élèves de terminer l'année scolaire en cours. Au cours de l'incendie, 7 salles de classe ont été sérieusement endommagées, rapporte le provède du Lualaba. Il s'agit des 4 salles de classe du secondaire et 3 de l'école primaire. Il est donc question de voir comment les élèves peuvent momentanément occuper d'autres locaux, dont la salle de fête et autres, qui pourraient circonstanciellement être transformés en salle de classe pour que les activités scolaires suspendues depuis lundi reprennent normalement. Une autre option est celle de voir si les élèves peuvent étudier les uns le matin et les autres l'après-midi. Considérant l'ampleur du choc subi par ces élèves, les autorités éducationnelles envisagent de mettre ces jeunes apprenantes à la disposition des psychologues pour leur encadrement afin de les détraumatiser. Les parents de ces élèves pourraient également bénéficier de cet encadrement qu'ils mettront aussi à profit pour aider leurs enfants à surmonter les chocs. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, la Senko exprime sa compassion à la suite de l'incendie survenu au lycée Notre-Dame des Lumières, communément appelé Mwanga de Kolwezi. Dans un communiqué publié ce mercredi, elle fait savoir que cette école est une œuvre de la congrégation des sœurs de Notre-Dame, chanoinesse de Saint-Augustin et symbole de la mission d'éducation inhérente à l'Église. C'est avec grande tristesse que nous avons assisté à l'incendie qui a dévasté le lycée, indique le communiqué signé par le président de la Senko, Monseigneur Marcel Outembi. La Senko s'est dit ainsi heureuse de constater que les autorités politico-administratives, avec les concours des services compétents, de certaines entreprises minières et autres locales, se sont impliquées immédiatement pour porter secours aux enfants et maîtriser le feu ravageur. Les prélats catholiques expriment ainsi à toutes ces personnalités leur reconnaissance. Ils en appellent à la solidarité de toutes les bonnes volontés et à l'aide du gouvernement pour la réparation des dégâts causés afin que les enfants recouvrent le plus rapidement possible les bonnes conditions d'études. Ici à Kinshasa, nouvelle tension ce mercredi à l'Institut National des Bâtiments et Travaux Publics, INBTP, dans la commune de Ngaliema. Selon le président des étudiants suspendus, cela fait suite à un communiqué des autorités académiques publié hier soir. Un message annonçant les renvois définitifs de cette institution de certains membres de la coordination des étudiants. Cette nouvelle tension intervient alors que les cours venaient de reprendre à l'INBTP après environ une semaine d'interruption. Les étudiants dénonçaient cette fois-là la hausse des frais académiques. On écoute Césaire Ababa, président des étudiants de l'INBTP Ngaliema suspendu.
Aujourd'hui, il y a une revendication des étudiants encore parce que hier, il y a eu un communiqué de l'exclusion définitive du président, du vice-président des étudiants et de quelques membres de la coordination étudiantine. L'exclusion est due aux fixations des frais académiques que les étudiants ont revendiqué. Nous les avons accompagnés jusqu'à la fin. Il y a eu une négociation et nous avons trouvé une solution. Les étudiants ont accepté cette solution. D'où les lundis et mardis de cette semaine, il n'y a pas eu de désordre ni revendication. Mais arrivé dès mardi vers 17h, le directeur général académique et le comité de gestion étaient en réunion. Ils nous ont révoqué ou exclu définitivement de l'institut parce que nous cherchions à mettre la paix.
De son côté, le directeur général de l'INBTP explique les renvois définitifs ou temporaires de certains membres de la coordination par le fait qu'ils sont à la base des troubles et autres destructions méchantes du patrimoine de cet institut. Pour le moment, leur pouvoir est confié au collège des chefs de promotion. Notez qu'une réunion a eu lieu cet après-midi entre les autorités académiques et des responsables de l'enseignement supérieur. Santé. La province de l'Ituri a enregistré 1 220 000 cas de paludisme au cours de l'année dernière, dont 1 375 décès. Ces chiffres ont été publiés hier à Bounia par la Division provinciale de la Santé à l'occasion de la Journée mondiale des luttes contre le paludisme. La situation est alarmante à cause de l'état de vulnérabilité des personnes affectées par les conflits armés, a déclaré cette autorité sanitaire. Dr Louis Chulo indique que des efforts sont déployés pour lutter contre cette maladie en sensibilisant la population à utiliser correctement les moustiquaires imprégnés et à respecter les mesures d'hygiène. Il est joint au téléphone par Ezekiel Mousalia.
Et le paludisme est toujours en tête dans la province. Nous sommes dans une province endémique. Notre objectif serait de d'assurer le soin de primaire et à tous. Il y a plus de 1 600 000 personnes qui vivent dans des conditions précaires. Il y a aussi les réfugiés de Sud-Soudan qui sont du côté de Biringi. Les activités que nous menons par rapport à la lutte contre le paludisme, c'est dans 3 volets. Il y a les activités curatives, les activités préventives et les activités promotionnelles. Bon, à toute la population, nous demandons en fait que les moustiquaires qui sont rendus disponibles sont les moustiquaires imprégnés à longue durée de ce qu'ils utilisent. Et il y a aussi une campagne qui est préparée pour cette année, et toujours pour renforcer que dans tous les ménages, on ne manque pas suffisamment de moustiques. Et avant de dormir, on se rassure qu'il n'y a pas de tout qui va permettre à ce que les moustiques anophèles entrent la nuit pour vider les personnes qui dorment.
Je l'ai dit tantôt, l'Assemblée nationale a déclaré hier recevable 2 propositions de loi relatives aux ordres nationaux des héros nationaux et des léopards et les a envoyées à la Commission politique, administrative et juridique, PAJE, qui a 7 jours pour les toiletter et soumettre à la plénière. D'après le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, ces 2 propositions de loi visent à accorder une reconnaissance de la nation congolaise à ceux qui se distinguent par leur travail et sacrifice. Cette loi ne vient pas remettre en cause la reconnaissance de Kabila et Lumumba comme héros nationaux, mais ouvrir la possibilité aux autres d'acquérir le titre des héros nationaux, souligne l'auteur de la loi. André Mbata est au micro de Michel Kifindangoy.
Il fallait présenter ces 2 propositions de loi pour exprimer la reconnaissance de la nation à ses dignes fils qui lui ont rendu des services loyaux et même extraordinaires. Ça, c'est le cas de l'ordre des héros nationaux et dont les actes devront être enseignés à cette génération et aux générations futures. Avec l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba, le texte était limité à 2 seules personnalités de notre histoire qui étaient héros nationaux, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Et il n'était pas possible que d'autres personnalités accèdent également au statut de héros nationaux. Mais avec la proposition de loi, d'autres personnalités comme Kimpa Vita, comme Simon Kimbangu, qui a joué un rôle incroyablement important dans notre histoire, des personnalités même comme Kassavubu, Étienne Tshisekedi et d'autres peuvent être reconnus héros nationaux dans notre pays après adoption d'une résolution par les 2 chambres du Parlement et puis ordonnance présidentielle. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas être reconnus héros nationaux peuvent être admis dans l'ordre national du Léopard.
Affaire Matata Ponyo en plus bref. La Cour de cassation vient de retourner le dossier de Bukangalonzo à la Cour constitutionnelle. Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée seule compétente pour juger les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo et consorts dans l'affaire de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo, peut-on lire dans le communiqué de la cellule de communication de la Cour de cassation ce mercredi ici à Kinshasa. Ainsi, la Cour de cassation va prochainement formaliser ses renvois à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci juge l'ancien premier ministre Patrice Kitebi, ancien directeur général du FPI, et Grobler Christo, gérant de la société sud-africaine Africom. Direction la province du Kassai Oriental, où la société chinoise dénommée Bishu, qui a signé le contrat d'amodiation avec la société minière de Bakwanga, Miba, n'a pas encore commencé l'exploitation du diamant au polygone minier. Cette affirmation a été faite hier par la délégation syndicale de la Miba après une visite guidée organisée par la Miba au polygone minier avec les journalistes et des médias locaux. L'objectif de cette visite a été de se rendre compte de l'exploitation ou non du diamant au niveau de la boucle de Dibindi qui se trouve à l'extrême est du polygone minier. Des explications à Mbujimayi avec Esther Ndalafina.
Cette visite intervient après une lettre adressée il y a quelques semaines au responsable de la MIBA par le sénateur Ogi Ilunga, élu du Kasaï oriental. Ce dernier veut avoir des explications autour de l'exploitation minière au niveau de la boucle de Dibindi au polygone minier estimé à moins d'un kilomètre carré par une entreprise chinoise dénommée Bishu. Sur place, les journalistes se sont rendus compte de la non-exploitation minière par l'entreprise chinoise ainsi que de l'absence de ressources humaines sur le lieu. Cependant, quelques équipements ont été déjà déployés sur le site par l'entreprise chinoise. Selon la société minière, ce gisement n'est plus prioritaire. Ses réserves en diamant représentent près de 1,9% et son exploitation a été suspendue depuis 2006. Albert Kalongedi Toutou, directeur technique, parle des clauses de ce contrat.
Il ne s'agit pas d'une cession, d'une concession. Non, il s'agit plutôt d'un contrat d'amodiation. La modération, c'est-à-dire la MIBA accepte de mettre ses périmètres ici en activité avec un partenaire. Ils vont travailler ensemble, mais le partenaire est soumis à un loyer.
Selon la MIBA, la signature de ces contrats ne peut en aucun cas impacter sur le plan de relance de cette entreprise minière.
Le plan de relance a tenu compte du fait qu'il y avait un contrat d'amodiation qui était déjà en cours de négociation.
Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Signalons que les polygones miniers de la société minière de Bakwanga, MIBA, se trouve au sud de la ville de Mbujimayi. Cet espace couvre une superficie de plus de 45 km². Il compte à ces jours 66 millions de carats de diamants, des réserves minières stratégiques certifiées par ses services, affirme le directeur technique de cette société minière. Retrouvons à nouveau Esther Ndalafina.
Le polygone minier est le cœur de la société minière de Bakwanga MIBA à cause de ses ressources minières. C'est depuis 1961 que cette entreprise extrait le diamant dans l'espace Kasaï et plus précisément dans la province du Kasaï oriental. Le polygone minier est découpé en plusieurs périmètres miniers contenant des gisements de diamants. La MIBA compte près de 13 à 14 massifs kimberlitiques sur lesquels les sondages des teneurs et des structures ont été effectués il y a près de 4 ans par Geostat. Depuis sa création en 1961 jusqu'en 2000, la MIBA produisait en moyenne plus de 6 millions de carats par an. Elle disposait de 3 grandes usines de traitement de diamants. Actuellement, le polygone minier est confronté aux difficultés de production des pierres précieuses. D'après les autorités de la MIBA, l'outil de production est vétuste et presque inexistant. Les pelles achetées il y a 2 ans sont tombées en panne et nécessitent des pièces de rechange pour le mise en service. À cela s'ajoute le manque d'énergie électrique au niveau du polygone minier suite aux pannes enregistrées depuis plus d'un mois au niveau de la centrale hydroélectrique de Tchala qui principalement doit fournir près de 2,5 MW au polygone pour la production minière. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le dictateur soudanais déchu Omar el-Béchir est toujours dans un hôpital sous la garde de la police judiciaire, a annoncé ce mercredi l'armée après qu'un de ses lieutenants recherchés par la Cour pénale internationale CPI a annoncé s'être évadé avec d'autres. L'armée assure que 4 autres militaires accusés pour le 30 juin, le coup d'état d'el-Béchir en 1989, se trouvent également à l'hôpital Alia des forces armées depuis avant les débuts des combats le 15 avril entre les deux généraux au pouvoir à Khartoum.
L'invité.
Les cas d'inondation ont été enregistrés dans plusieurs territoires des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Haut-Lomami. Il en est de même de la province du Maniema. Des milliers de personnes sont restées sans abri. Pour le professeur Jean-Pierre Njibou, expert en environnement, cette situation est causée par plusieurs facteurs, dont les constructions anarchiques, les changements climatiques et la coupe abusive des bois. Le professeur Jean-Pierre Njibou est l'invité du journal. Il s'entretient ici avec Jean Gandou.
Professeur Jean-Pierre Ndibou, bonjour.
Bonjour.
De plus en plus, on parle des inondations tant dans la province du Haut-Katanga, la province du Haut-Lomami et dans le Maniema. À quoi cela serait-il dû?
Il était prévu qu'on aurait suffisamment d'averses au courant de cette année. On dirait des orages de pluie avec des orages, avec des vents violents. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose qui arrive à aggraver cette situation, c'est le changement climatique au niveau mondial et accompagné aussi avec le changement climatique au niveau local. Troisièmement, nous avons savons, le réchauffement de la surface de la Terre, le réchauffement augmente la température de la surface du sol, ce qui veut dire que toutes ces zones qui sont le long du fleuve et même dans des grandes villes où il y a beaucoup de cours d'eau et il y a beaucoup d'évaporation, et ces évaporations provoquent également des averses qui sont localisées et accompagnées avec de vents violents, comme c'est la période pour le moment. L'autre facteur qui aggrave, c'est les constructions anarchiques. Les gens n'ont pas compris qu'il ne faut jamais construire dans le lit de rivière, sur le pente de rivière.
Nous voyons qu'à Malembankoulou ainsi qu'à Bukama, il y a eu de fortes averses et il y a plus de 100 000 personnes qui ont été touchées. Est-ce qu'il y avait moyen de prévenir ce genre de choses?
Oui, c'est évident, on pouvait bien prévenir. Nous avons commencé à avoir beaucoup d'inondations à partir de 2008 et ça devenait pratiquement annuel. Principalement quand il s'agit des Olomami, on prend le territoire de Bukama, de Malemba et quand on monte Kabalo vers Tanganyika. Lorsqu'on commence à avoir des inondations de manière annuelle, on doit anticiper pour prendre des mesures. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. En 2010, il y a eu un conseil de ministres à Bukama. C'était organisé par la province de Olomami. Et une des résolutions, c'était de pouvoir délocaliser les populations des sites qui sont considérés des sites à risque et qui sont probablement les lits du Lualaba. Et malheureusement, cela n'a pas été fait. Donc, il n'y a pas eu de suivi de 2010 jusqu'à maintenant. On déplore chaque année autant de morts, autant de dommages, autant de catastrophes. Mais malheureusement, les mesures de prévention ne sont pas adaptées. Il faudrait nécessairement que nos dirigeants y mettent du moyen, qu'ils aient des plans d'adaptation au changement climatique et à l'énergie, et que ce plan climat puisse être national et puis local pour chaque ville, ainsi de suite. Mais dans les cas actuels où on a à chaque année autant de problèmes, il serait beaucoup mieux de pouvoir d'abord délocaliser toutes les personnes qui sont dans les lits des rivières, que ce soit les lits majeurs où les gens considéraient qu'il y a 30 ans, il n'y avait jamais eu d'inondation, mais aujourd'hui, c'est chaque année, c'est-à-dire le fleuve est en train de récupérer, ou les cours d'eau sont en train de récupérer l'heure, parce qu'il y a une masse d'eau assez importante qui est en train de couler le long des talouègues ou du cours d'eau ou du fleuve.
Et on en a aussi parlé du côté des Kindu, dans la province du Maniema, et là aussi, ce sont les mêmes raisons aussi évoquées?
Oui, pratiquement, ce sont les mêmes raisons. Nous avons le fleuve qui est là, qui doit drainer autant des quantités d'eau, et ces quantités d'eau viennent de deux versants. Si les versants ont été déboisés, les déboisements favorisent le ruissellement, et les eaux ne savent pas s'infiltrer, finissent par couler vers le cours d'eau, pour être drainées par le fleuve, ni par déborder. Et certainement, plus on a des précipitations, plus il y aura aussi beaucoup d'eau, moins il y aura des surfaces pour contenir cette eau par le fait qu'il y a eu des constructions anarchiques et que les gens ont pu construire le long de versants. Ils ont construit dans le lit majeur, dans le lit moyen du fleuve. Et le fleuve, en voulant déborder, il va retrouver son fonctionnement normal et il a besoin de retrouver sa dynamique au niveau de son lit moyen. Mais il va rencontrer qu'il y a des habitations. Et les gens deviennent victimes de leur propre comportement. Et ça, ce sont des choses qu'il faut prévoir et anticiper. Et c'est pourquoi les études hydrologiques exigent, lorsqu'on fait des études en tenant compte de fréquence des crues, on finit par comprendre dans combien de temps on peut avoir des crues et des inondations beaucoup plus extrêmes dans telle zone et qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper et éloigner les gens. Et c'est ce qui oblige qu'on produise la cartographie de risque pour l'ensemble de la RDC pour déterminer quelles sont les zones à haut risque, que ce soit au niveau des inondations, que ce soit au niveau des éboulements, que ce soit au niveau des glissements de terrain, que ce soit au niveau de tout autre risque climatique ou risque géodynamique, mouvement sismique éventuellement, ou tout ça. Il faudrait qu'on anticipe et qu'on demande aux gens de ne plus construire dans ces zones-là. Et lorsqu'on a une cartographie, ça devient un outil fondamental pour toutes les personnes qui gèrent le territoire, la ville, l'urbanisation, donc la planification de ville, l'urbanisation de ville, le cadastre ou le titre foncier.
Professeur Jean-Pierre Dubout, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Notre invité, le professeur Jean-Pierre Ndjibou, répondait aux questions de Jean Gandou Kabongo. Ce journal touche à sa fin. Merci infiniment à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné et Pelé Kipé Lamondo qui l'a supervisé. Fidèles auditeurs, merci également à vous de nous avoir suivis et portez-vous bien. Au revoir.